Amis Burgiens, bonjour à vous.
Et voici pour eux, pour nous.
Pour vous, Electric Boogaloo, votre chronique à cœur et à plume sur la fine fleur graphique de la bande dessinée.
Anne Tissier.
Et Maxime Mott, vous êtes bien sûr Radio B.
Pour vous servir. Pour continuer.
Et en finir, avec les mythes, trois albums remarquables ici.
Chaque nuit, je les vois. Toutes ces choses grandes, belles, gigantesques que je pourrais faire. Elles sont si réelles que je pourrais presque les toucher. Mes rêves ne font que grandir, Harry, alors même que la possibilité de les réaliser s'amenuise. Ainsi parle David Smith, jeune sculpteur new-yorkais à son grand-oncle Harry, mort quelques années plus tôt, et dont il s'aperçoit que son surgissement dans un café le jour de son 26e anniversaire est celui du pacte avec le diable. « Oui, David, que donnerais-tu pour ton art ?»« Je te l'ai dit, je donnerai ma vie. » Quand le soleil se lèvera, ton vœu sera exaucé. Et si tu aimes ce que je t'ai donné, tu auras 200 jours pour l'utiliser avant de mourir.
Et le coup de cœur d'aujourd'hui, le sculpteur de Scott McCloud aux éditions Rue de Sèvres, paru en 2016. Mais qui est Scott McCloud? Eh bien, c'est avant tout un éminent et enthousiaste conférencier articulé autour de la question de la bande dessinée, de son art graphique, de sa réalisation et, mine de rien, l'orchestration d'un scénario décent. Et quand le maestro se met à l'ouvrage, il a tout naturellement toute notre attention. Le sculpteur est avant tout l'histoire d'un homme, David Smith, un jeune, très jeune sculpteur, à l'indéniable talent et la renommée grandissante. Mais hélas, David est un homme compliqué, criblé de principes d'une radicalité hostile à toute forme de compromis. Il finit par s'aligner son public, ses mécènes, ses rares, très rares, trop rares amis. Notre récit commence sur ses pas hésitants dans la foule manhattanite. Récemment expulsé, ses derniers cents en poche, il entre dans un diner pour un dernier café.
Le bougre est en berne.
Hélas, lorsque soudain il rejoint son grand-oncle Harry, qu'il n'avait pas vu depuis l'enfance, s'engage alors une conversation cruellement mélancolique sur les déceptions et frustrations de David. Au fur et à mesure de leurs échanges, nous comprenons que l'oncle Harry n'est pas vraiment l'oncle Harry, mais une entité qui lui propose un pacte, réduire sa vie à 200 jours en échange de la faculté de plier la matière à sa volonté au seul usage de ses mains et de sa dextérité. Harry lui pose donc une question essentielle : que donnerais-tu pour ton art ? Et David de répondre « Ma vie ». Et le pacte est scellé.
Le pacte est scellé. L'art ultime contre une vie éphémère. Et Harry de disparaître. David, sonné par cette conversation qu'il prend pour le rêve d'un homme déprimé et saoul, assiste à une performance de rue où il est pris à partie dans une mise en scène d'adoration collective pour sa personne. Lui apparaît un ange sous la forme d'une jeune femme, Meg, qui lui dit « Tout va bien se passer ». Et pourtant, tout commence mal. David est endetté, et cela malgré ses nouvelles capacités. Car vous pouvez vous appeler David Smith, avoir passé un pacte avec le diable pour un don exceptionnel, il n'en reste pas moins qu'il faut affronter la réalité et ses contraintes. Et ce, en 200 jours.
Et il s'en passe des choses dans une minute new-yorkaise. David a changé, certes, ses mains aussi, mais le monde autour de lui, non. Il lui faut un atelier, des revenus pour payer sa matière première, des soutiens dans les galeries d'art, de bonnes critiques et accessoirement des amis pour l'entourer. Tout ce qu'il est précisément en train de perdre du fait de son caractère entier et intransigeant. Est-il de meilleurs remèdes à ces menues contrariétés que l'affection partagée qu'on appelle l'amour ?
Eh oui, Scott McCloud fait ici le portrait minutieux d'un homme dans une ville et son milieu artistique gangréné par l'argent. Maître de la narration et dessinateur de cet album reconnu par la critique pour son scénario intelligent, construit autour de la question de l'œuvre d'art, la relation à la famille, la reconnaissance sociale, la solitude et la mesure de l'homme ordinaire.
Il s'agit bien évidemment d'une réinterprétation du mythe de Faust de Goethe. Mais ici, Scott McCloud se détourne de la bête question morale de la vanité humaine pour l'éternelle jeunesse, au profit d'un choix assumé pour une vision radicale de la relation entre l'homme, ses limites et sa mortalité.
Et surtout, ce qu'il choisira d'en faire en 200 jours. La conquête totale de la sincérité en amour et dans l'art gratuit, offert à tous, au terme d'un sacrifice ultime.
Puisqu'il est bel et bien question d'un roman graphique, le graphisme est fidèle à la tradition du roman graphique, même si cet album est une bande dessinée à proprement parler. La relation entre la disposition des cases et les émotions des personnages est finement orchestrée. La dernière page est celle de la dernière case, unique, qui nous livre à lire son ultime conclusion.
Quant aux tons, ils sont plutôt bleu-gris, les personnages sont tirés au trait, les visages et mouvements sont très expressifs. La ville de New York est dessinée chirurgicalement, tout en ligne, les rues, les immeubles. Vraiment, on s'y croirait.
Pour conclure, c'est un beau temps romanesque au sens strict du terme, donc un vrai roman graphique sur la création. Mais aussi une nouvelle version du mythe de Faust, sensible, profonde et intelligente. MacLeod superpose les mythes familiaux, urbains, artistiques, dans la quête du sens d'un homme qui, en 200 jours, se battra pour exprimer toute l'intensité du mot « vivre ».
Et oui, comme dit ce bon vieux Jean-Luc Godard, on ne crée pas pour s'exprimer, on s'exprime pour créer. Et comme il fut question de création et des formes que peuvent prendre les ambitions humaines, laissons à Sting le soin de vous accompagner en chanson avec « The Shape of My Heart ».
Cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Un jour j'irai là-haut, tu seras fier de moi.
Je sais que tu réussiras, mon fils. Tu seras le plus grand.
Et la leçon du jour portera sur le grand Malchus Elsen, votre lointain ancêtre qui fut chambellan du roi Dieu et pourrait-on dire le premier véritable chambellan digne de ce nom.
Ainsi s'ouvre le récit de l'histoire du chambellan Jori Draken, sa mère, et sa première leçon de politique. Jori Draken, l'un des personnages principaux de la magnifique série des ogres dieux de Hubert et Bertrand Gatignol. C'est une série commencée aujourd'hui et continuée en 3 volumes publiés entre 2014 et 2019. Les 3 titres des 3 albums sont Petit, Demi-sang et Grand Homme.
Et qui sont ces ogres, ces mangeurs d'hommes de grande taille ?
Eh bien oui, ce sont des mangeurs d'hommes de grande taille. Vous supposez bien, effectivement, et c'est une bonne définition. Oui, des créatures que l'on n'a pas envie de croiser à la tombée de la nuit, ni en plein jour d'ailleurs.
Non.
Donc, dans le récit, les ogres sont descendus de la montagne pour prendre le pouvoir dans une immense vallée et s'emparer du royaume des hommes, qui sont bien évidemment réduits en esclavage pour assouvir leurs caprices. Et l'équilibre, si j'ose dire, de cette société est perturbé par un étrange événement, la naissance de Petit, qui est un ogre minuscule, et son père veut évidemment le tuer car sa taille est le symbole de la décadence de sa race. Mais sa mère aimante feint de le manger et le dissimule en le confiant à une parente encore plus grande qu'elle, la princesse Desdé, qui est la tante du roi en fait, mais recluse dans les fins fonds du château. Petit est paradoxalement élevé selon des principes humanistes par une ogresse qui aime les hommes mais pas en civet.
À l'opposé, un simple mortel, Jori Draken, un demi-sang, né d'une relation légitime entre une roturière et un noble, tous deux humains, ivre d'ambition, gravit tous les échelons de la société des hommes pour réaliser son rêve, obtenir le poste le plus convoité, celui du grand chambellan à la cour des ogres dieux. Il traque Petit pour se venger de la reine ogre qu'il a en partie broyée entre ses mains dans un mouvement d'humeur. Sa résistible ascension sociale est celle d'un homme désirant se venger des ogres et des nobles nés pour asseoir une nouvelle dynastie, la sienne, pour les siècles à venir. Mais qui sera vainqueur de ce duel d'égo titanesque ? Qui est le mystérieux l'ours, le personnage principal du 3e volume, le grand homme ? Et c'est à vous, cher lecteur, de l'apprendre.
Et oui, comme on dit au Québec, on ne va pas divulgâcher tout de même.
C'est
et
classe.
Puis, au boulot quoi, enfin, pour découvrir la fin. Disons d'un mot, pour planter le décor, que ces volumes sont absolument magnifiques. Ce sont des albums de grande taille
c'est
qui font...
Classe.
Au moins 150 pages pour notre plus grand plaisir, en noir et blanc, je dirais même plutôt en noir, en blanc et en gris. Le style graphique est un parti pris qui va jouer beaucoup sur les contours d'aplats noirs, rappelant la technique de la carte à gratter. Et ainsi, cette technique suscite une sensation de relief nocturne à la fois fantastique et gothique. Donc le dessinateur Bertrand Gatignol a également magnifié les architectures intérieures et extérieures pour jouer justement avec les différences d'échelle qu'il y a entre le monde des hommes et celui des ogres géants. Ici, ces derniers ont le pouvoir, donc leur château est à leur dimension. Les hommes sont réduits à de petites souris qui vivent dans des espaces gigantesques.
Piétinés à l'envi d'ailleurs.
Oui.
Au contrario des géants gargantuais et pantagruels illustrés par Gustave Doré.
Et oui, nous sommes ici bien loin de Rabelais, de ses leçons de vie et de son sens de l'humour grivois et ironique. En fait, nous avons affaire à des albums où la tension dramatique est palpable constamment et les deux protagonistes doivent survivre dans un monde totalement impitoyable.
Vivre et laisser mourir.
Oui.
Lire donc sans modération au fond d'Ali pour de belles nuits blanches.
Et avant de vous précipiter dans les meilleures librairies, restez encore quelques instants avec nous pour écouter un classique absolument incontournable, Une nuit sur le Mont Chauve.
On ne néglige pas ces classiques.
Oui.
Lorsqu'on évoque les super-héros, un personnage de premier plan universellement reconnu a tendance à être laissé pour compte. Mais considérez ceci. Il défie les lois de la physique en voyageant autour du monde à des vitesses impossibles. Il dispose de sa propre voiture volante, de ses propres assistants, de sa propre base secrète en Arctique et d'une mission bien définie. C'est un immortel qui aime tant l'humanité, surtout les enfants, qu'il distribue lui-même des cadeaux personnalisés à des millions de personnes chaque année. Il porte même un uniforme blanc et rouge bien distinctif. Tout le monde connaît son nom. Vous connaissez son nom. Il est même peut-être possible qu'il soit plus populaire que Batman et Spider-Man réunis. Et pourtant, il n'a ni série de comics, ni franchise cinématographique. Qui est ce modèle de puissance et de générosité infinie qui reste cependant négligé? Je parle de Santa Claus, le Père Noël, bien sûr. Ainsi parle Grant Morrison, scénariste de l'album Klaus sur l'histoire secrète du Père Noël qui nous intéresse ici.
Eh oui, Klaus de Grant Morrison et Dan Mora aux éditions Glena Comics, paru en 2018. Grant Morrison est l'un des scénaristes de comics les plus primés, mais on lui doit notamment le très remarqué Batman Arkham Asylum, qui a 30 ans déjà, mine de rien, oui. Mais il est aussi l'éditeur et rédacteur en chef de Heavy Metal, la mythique revue Metal Hurlant dans sa version américaine. Dan Mora Chavez, quant à lui, est né au Costa Rica en 1987 et s'est fait connaître avec la série Hexed. J'espère que je prononce convenablement.
Hexed.
Oui, en 2014 chez Boom Comics. Cet album lui a valu une nomination aux Eisner Awards. Les Eisner Awards, il faut le savoir et le retenir car c'est une chose importante, est une récompense prestigieuse, si ce n'est la plus prestigieuse. Oui,
effectivement.
Oui, puisque elle prime les meilleures contributions au 9e art. Leur talent conjugué nous offre ici une approche original et Heroic Fantasy de la vie du Père Noël. Bien dépoussiéré et, il faut le dire, sexy.
Plutôt badass,
oui.
Effectivement. Ces histoires ici se lèvent aux aurores boréales sur le décor gelé de ces contrées nordiques. Un tyran, un château, de la neige et des loups, certes comme on en voit beaucoup, mais un Père Noël chasseur de démons, protecteur impavide des enfances malmenées comme on n'en connaît pas. Alors on sort les capes, on affûte les haches, Santa Claus a du pain sur la planche. Notre archétype de personnage ici, le drifter, l'âme errante d'humeur vagabonde, ici sous le trait d'un trappeur, faisant escale dans la morne cité médiévale de Grimsvig. Une intro somme toute classique ici, notre trappeur solitaire, loin de son foyer, se fait conduire manu militari par la garde cruelle de la cité, qui lui bourre la truffe à coups de lance. Et pour cause, notre héros a tenté de s'opposer à la confiscation d'un jouet, triste Oula. Signe d'une dictature prédatrice au sombre dessein. Hélas, les vives couleurs de Noël, comme les rires des enfants, sont prohibées, confisquées, persécutées et chassées.
Et oui, notre ami n'a d'autre solution que de fuir dans un premier temps, aidé en cela d'une superbe louve blanche, sa louve fidèle, Lily.
À vue de nez, je dirais 300 kilos. Hein.
Oui, il faut ça, effectivement, pour se protéger. Soucieux et déterminé de reconquérir la joie et les rires promis aux festivités hivernales, il mènera, seul, une croisade contre le mal en la personne du seigneur du château. Donc le seigneur du château, c'est évidemment un noble cupide, sous l'influence d'un démon dans un sombre marchandage d'enfance. Détruite et malheureuse.
Et est-il de meilleur remède à l'absence de sourire que les jouets magiques fabriqués par des esprits élémentaires de la forêt, répondant à l'appel de notre trappeur au grand cœur? Bravant le couvre-feu, s'infiltrant par les toits, Klaus distribuera jour après jour, sans coup férir, les jouets pour les enfants par les cheminées. Cet acte de bravoure insufflera vent d'espoir et de courage dans les foyers opprimés, chez les grands et les petits, attisant les braises de la révolte. Les forces de la forêt, à l'appel de Klaus, chassées de la ville, lui ouvrent le chemin du combat pour la liberté en le munissant d'une arme révolutionnaire, les jouets. Des batailles épiques, de la magie, des duels, des monstres et autres abominations humaines, et enfin et surtout un bougre de Père Noël, une clémore à la main pour lestement leur casser la gueule.
Quant au graphisme, Dan Mora brille par un style que, il faut bien le dire, qui est fin et maîtrisé. Oui, tout à fait, exactement. Un paysage hivernal somptueux, des couleurs somptueuses et des corps expressifs. Alors, je ne peux pas m'empêcher de le dire, dans la pure tradition esthétique néoclassique des comics américains. C'est beau, ça claque, c'est bourrin, on aime bien.
Et c'est la classe, encore. Oui. Grant Morrison, ici, maîtrise les codes cinématographiques au service du comics. Son ouverture est celle d'un western à la Sergio Leone, avec Clint Close qui nous rappelle Clint Eastwood. Le récit change alors de ton et de genre pour se tourner vers l'heroic fantasy, avec le recours à la magie et la relation à la nature et des forces surnaturelles. Les scènes de souffrance humaine des villageois asservis à la mine de charbon de la cité nous rappellent Germinal, Zola et autres menus contrariétés industrielles. Les batailles épiques sont dignes d'un bon film d'action, quelque part entre The Witcher, Skyrim et John Wick. Le Père Noël est prêt. Sa liste aussi. Et puisque Noël approche et qu'il est question de liste, n'oubliez pas ce récit singulier du Père Noël le plus badass depuis Saint-Nicolas. Klaus de Grant Morrison et Dan Mora, dans toutes les bonnes librairies.
Sons and